Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 16 avril 2026, en direct des studios de Choc.ca à l'UQAM, au centre-ville de Montréal. Il est 18h31 pour ceux et celles qui nous écoutent en direct. Donc, les Apatrides, aujourd'hui encore, pour une troisième semaine en duo, mesdames et messieurs. Donc, Simon est avec moi. Bonsoir Simon.
Salut Mathieu, salut tout le monde.
Bonjour, bonjour. Marie-Ève sera de retour la prochaine fois, mais il y a deux semaines, c'est moi qui ai manqué l'émission et Simon et Marie-Ève ont fait un excellent travail. J'ai écouté ça et analysé et évalué le tout.
Merci, mais je trouve qu'on se relâche un peu, là, la formule trio, là, il va falloir reprendre ça bientôt.
Bientôt, oui, on a eu un gros printemps. Donc aujourd'hui à l'émission, ben beaucoup de sujets, des micros un peu plus courts vu qu'on est juste deux. On va parler, entre autres, d'histoire et de décolonisation. C'est Simon qui va nous en parler tantôt sur différents pays. Les actualités autochtones, les actualités en immigration, racisme au niveau national aussi. On va parler de l'extrême droite, certains procès qui ont lieu actuellement. On va parler aussi des enjeux de la Manche en lien avec, entre autres, la Belgique. Simon?
Ben oui, ben qui est sur la Manche aussi. Hein. On pense tout le temps en France, mais...
Et Angleterre. Je vais commencer dans quelques secondes avec la répression qui continue contre les militantes palestiniens et palestiniennes. En musique, on aura Between the Buried and Me. On aura aussi You Do Right avec Population 2. On aura BB Club et on aura Kim Gordon dans un premier temps dans à peu près 5-6 minutes. Vous dire ben, qu'on est une émission qui parle d'enjeux, de racisme, de frontières, de droits humains, d'abus de pouvoir, de problèmes avec la police, la justice. On parle beaucoup des Autochtones au Canada, au Québec et à l'international. Et beaucoup d'immigrants, immigrantes, évidemment, un peu partout. Donc, ben, on commence ça avec quelques notes de musique. Ce sont les Apatrides Anonymes. Comme je le disais, je vais commencer avec la répression à l'international contre la lutte pro-palestinienne. Donc, on commence avec la France. Quelle surprise! Olivia Zemmour, 78 ans, présidente du groupe Euro-Palestine, a été déclarée coupable d'apologie d'actes de terrorisme pour des articles publiés en octobre 2023. Le tribunal l'a condamnée à 2 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité, mais c'est pas une politicienne, 2 000 euros d'amende et 3 000 euros de dommages et aussi l'inscription au fichier judiciaire national des auteurs d'infractions terroristes. Il y a ça en France, mesdames et messieurs. Elle a aussitôt fait appel de ce jugement, évidemment. C'est une madame âgée juive qui milite pour les droits des Palestiniens, on s'entend, dans une ONG. L'avocat de madame Zemmour dénonce une décision politique qui s'aligne sur l'agenda gouvernemental de répression du mouvement de solidarité avec la Palestine. Je le cite, ce qui est le plus inquiétant, c'est de voir à quel point la plume du juge peut être tenue par l'exécutif politique et à quel point l'autorité judiciaire peut aligner ses positions avec celles de la diplomatie française. Alors que le gouvernement examinait en ce moment les 16 et 17 avril la proposition de loi portée par la députée Caroline Yadan, les soutiens de la cause palestinienne s'inquiètent d'un tournant dangereux dans la répression de leurs paroles. Mais Simon, tu as un complément d'information.
Oui, ben une loi qui se calquait un peu sur la définition très controversée et liberticide de l'antisémitisme. Mm-hmm. On apprenait aujourd'hui qu'elle était retirée de l'agenda législatif de l'Assemblée nationale française. Donc tout le monde criait un peu victoire, mais dans les mêmes articles que j'ai pu lire, on apprenait qu'elle pourrait être redéposée telle quelle par le gouvernement au mois de juin.
Ouais.
Donc histoire à suivre.
Là, parce que c'était une députée par elle-même officiellement qui le déposait, mais le gouvernement pourra la reprendre éventuellement.
Oui, une députée, je crois même d'Israël. Une députée française, mais d'outre-mer.
Représentant d'Israël et du bloc Macron, je pense. Oui, tout à fait.
Oui, Renaissance, si je me rappelle bien.
Exactement. Donc, toujours en France, mais Rima Hassan, dont vous avez entendu parler parce qu'elle devait venir au Québec il y a 2-3 semaines prononcer des conférences et que sa venue a été empêchée par l'Agence des services frontaliers, ben elle dénonce, après sa garde à vue, un harcèlement judiciaire et politique sans cesse, parce qu'elle a été arrêtée encore il y a 2 semaines pour des histoires d'apologie du terrorisme. Je la cite, « La temporalité de cette dynamique de harcèlement a commencé dès mon entrée en politique et n'a jamais cessé depuis, a estimé l'élu LFI. » Donc, là-bas, elle va avoir un procès aussi. Donc, ça a fait que des gens ici qui ont dit « On a bien fait de la barrer là, au Canada parce qu'elle est poursuivie en France. » Comme par hasard, c'était à peu près la même semaine. il n'y a pas de hasard avec la justice et la police.
Et elle prenait du CBD pour son mal de dos aussi.
Oui, ben ça, c'est la niaiserie de plus là, qui rajoute, évidemment. On voit que tu vis ça, Simon. À la lettre.
Ben, j'ai pris le relais de Marie-Ève pendant son absence.
Oui, pour la France. Sinon, ben au Royaume-Uni, plus de 500 manifestants et manifestantes ont été arrêtés samedi dernier, le 11 avril, dans le centre de Londres, au cours d'un rassemblement pour demander la levée de l'interdiction du groupe Palestine Action. La police a déclaré avoir procédé à 523 interpellations de personnes âgées de 18 à 87 ans. Parmi les personnes arrêtées figurait le chanteur du groupe Massive Attack, entre autres, qui est assez actif sur la scène pro-palestinienne. Plusieurs centaines de personnes s'étaient retrouvées à la mi-journée à Trafalgar Square pour un rassemblement silencieux au cours duquel beaucoup arboraient la pancarte proscrite « Je m'oppose au génocide, je soutiens Palestine Action ». En février, on rappelle, la justice britannique a estimé que cette interdiction était disproportionnée, mais le gouvernement a fait appel et elle reste donc en vigueur dans l'attente de l'examen de l'appel. En vertu de cette interdiction, toute expression de soutien à Palestine Action est pour l'instant passible d'une sanction allant jusqu'à 6 mois de prison. L'appartenance au groupe ou l'organisation d'événements en soutien peuvent, quant à eux, être punis de peines allant jusqu'à 14 ans d'emprisonnement. Plus de 2700 personnes ont été arrêtées depuis juillet pour cette raison-là et plusieurs centaines ont été inculpées. Aux États-Unis, un petit suivi. Un juge de l'immigration au Texas a ordonné la libération de Leka Cordia le 13 mars dernier, un an après son premier placement en détention. Elle a été remise en liberté 3 jours plus tard sous caution. Leka Cordia a été prise pour cible en raison de son rôle dans l'organisation des manifestations à l'Université Columbia en 2024-25. Par contre, la procédure la concernant se poursuit devant à la fois les tribunaux fédéraux et de l'immigration parce que même si elle avait un visa tout à fait en règle d'étudiante, les États-Unis souhaitent l'expulser donc du pays. Pour finir, ici à Montréal, ça c'est pas vraiment mieux. La Cour supérieure rejette une injonction contre une motion de boycott d'Israël à McGill. Des étudiants sionistes, avec l'appui de l'administration de l'université, tentaient de bloquer un vote étudiant pour un boycott académique d'Israël. Le tribunal a rejeté une demande d'injonction provisoire visant une motion de boycott académique votée par les étudiants en droit de McGill. La demande déposée par une étudiante Israël en cours voulait empêcher la ratification de la motion en question. La plaignante a été donc déboutée, mais elle a également déposé une demande d'injonction interlocutoire et permanente qui sera entendue en cours supérieure prochainement. Et sinon, ben cette semaine était le début du procès des 44 de la banque Scotia. On pourra en parler plus. C'est 44 personnes qui avaient été arrêtées pour l'occupation de l'entrée d'une banque pour dénoncer les investissements de la banque Scotia dans l'armement israélien. Donc, le procès commence. Ça va être long. On en parlera donc dans les prochaines semaines.
C'est un seul procès pour les 44 accusés.
Ce que j'ai compris. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc, voici Simon. Écoute, on va entendre on va entendre une pièce.
On va entendre des notes complètes de musique. Là.
Ben oui, c'est moi qui la présente. Écoute, voilà. Donc, c'est une vieille de la vieille, Kim Gordon. La pièce titre de son album Play Me, sorti tout récemment en mars sur Matador Records. C'est le 3e album solo depuis la fin de Sonic Youth, dont elle est une des membres fondatrices et qui était là jusqu'à la fin dans les années 2000. Elle a fait d'autres projets, mais c'est son 3e album solo. C'est au palmarès Choc au niveau de la section internationale en 17e position. Et pour les intéressés, parce qu'elle fait, c'est pas rock comme Sonic Youth, c'est un petit peu plus expérimental, mais à la fois plus doux.
Il fait penser un peu au premier album de Beck, peut-être.
Oui, cette chanson-là particulièrement. Elle sera donc à Vancouver le 27 juillet et à Montréal le 12 septembre.
Lights, neon colors.
Dans ce segment des dernières actualités autour des traversées clandestines de la Manche vers le Royaume-Uni, ce qui va nous mener à la Belgique, qui est de plus en plus concernée par ce phénomène en forte augmentation depuis quelques années. D'abord, quelques informations un peu éparses, mais toutes récentes. Je vous parle d'un 24 heures qui a été particulièrement intense. Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, il y a eu pas moins de 8 opérations d'interception de migrants qui ont permis aux autorités françaises d'en sauver quelques-uns qui étaient en mauvaise posture, mais surtout de ramener sur le continent 111 migrants dont la traversée se solde finalement par un échec, dont un canot qui contenait à lui seul 77 personnes entassées qui ont toutes survécu, heureusement. Durant cette nuit-là, il y a quand même 325 migrants qui auront réussi à atteindre les rivages anglais sains et saufs. Par contre, cette nuit-là, deux migrants sont décédés, un homme afghan et l'autre soudanais. Ils sont morts au moment de leur embarquement par la technique dite du « taxi boat », qui consiste à récupérer les passagers au large directement dans l'eau, je ne sais pas à quelle distance de la rive, mais assez loin pour tenter d'éviter les patrouilles françaises qui surveillent beaucoup les points d'embarquement habituels sur la terre ferme. Ce sont les deux premiers morts sur la Manche en 2026. La mère d'un des hommes décédés était avec lui, elle a survécu, mais elle a dû être hospitalisée. Donc ça reste quand même une grosse journée, il faut le dire, mais ça donne quand même une idée de l'ampleur de ces traversées vers l'Angleterre à l'aube de la dite belle saison, qui normalement voit à chaque année le phénomène augmenter considérablement. Donc c'est précurseur d'un été 2026 qui risque d'être assez occupé sur la Manche, espérons-le le moins meurtrier possible. Sur les réseaux de passeurs envers qui les budgets et moyens de surveillance sont maintenant pharaoniques, on ne se contente d'ailleurs plus de simplement traquer les passeurs en tant que tels, mais aussi leurs fournisseurs de matériel nautique et tout ce qui est en amont des traversées. Grosse opération internationale qui a récemment mené à l'arrestation en France de personnes aux âges et profils assez variés qui font maintenant l'objet de plusieurs chefs d'accusation allant jusqu'à participation à une association de malfaiteurs. Il y a un article très complet sur infomigrant.net qui dresse le portrait de toute cette logistique. Le titre, « Traversée de la Manche, jusqu'à 9 ans de prison requis pour un réseau de 19 personnes transportant du matériel nautique ». On y apprend plein de choses sur cette logistique assez complexe qui s'étend sur plusieurs pays. Mais où je voulais en venir, c'est sur tout ce qu'on apprend sur cette business de la migration qui peut être assez surprenant. Je vous donne un autre titre récent des faux migrants qui risque de vous laisser un peu pantois.
Ah oui?
Oui. Tu l'as peut-être lu.
Oui,
Des passeurs faisaient traverser la Manche à des migrants en yacht en échange de 15 000 euros.
dans la cale ou... oui, c'est ça.
Non. C'était une belle traversée assez...
Okay. Relax.
C'était pas feutrée, mais... Okay. Puis yacht, je sais pas comment le prononcer.
Yacht, oui.
OK, parfait. Les propriétaires du yacht sont deux hommes ukrainiens qui promettaient un service de traversée clandestine VIP dans le confort de leur embarcation de luxe en petits groupes de 3 à 7 personnes, une traversée rapide, confortable et plus sécuritaire que par exemple en pneumatique de nuit en pleine tempête. Et un joli voilier blanc, il y a normalement beaucoup moins de chances d'attirer l'attention des avions de surveillance de Frontex qu'un canot complètement rempli. Mais je présume que les deux passeurs de luxe ont péché par excès de confiance. Ils opéraient un peu trop régulièrement le même aller-retour, avec passagers à l'aller mais vides au retour, ce qui finit par attirer l'attention jusqu'à ce qu'ils soient arrêtés par les autorités britanniques. Il faut dire que l'appât du gain était très fort. Le titre de l'article mentionne 15 000 euros par passage, mais ça pouvait monter jusqu'à 18 000.
Mm-hmm.
Ça reste quand même un fait divers parmi les dizaines de milliers de personnes qui tentent la traversée chaque année dans des conditions beaucoup plus difficiles. Des embarquements qui se déplacent de plus en plus vers le nord-est, je le disais, sur les côtes belges. Donc, le gouvernement est loin d'avoir déjà déployé autant de moyens que les Français pour empêcher les départs. Londres, d'ailleurs, cherche déjà à établir avec Bruxelles des partenariats en ce sens et Bruxelles semble très enthousiaste à l'idée de collaborer. Pas tant par désir d'aider les Britanniques, mais davantage motivé par un syndrome du pas dans ma cour pour éviter de devoir accueillir tous ces migrants qui campent dans des lieux informels, comme dans les environs de Calais, parfois pendant des mois, voire des années, avant d'embarquer pour le Royaume-Uni. En soi, si on fait abstraction des politiques anti-migrants de tous ces pays européens, c'est une très mauvaise nouvelle, ce déplacement des lieux de départ en mer, puisque dans les environs de Calais, en France, et les côtes anglaises, on a environ 30 km de distance en mer. Donc une traversée qui est d'ailleurs déjà considérée comme dangereuse, alors que du point le plus proche des côtes anglaises à partir de la côte belge, on vient pratiquement de doubler la distance de traversée.
Ah oui, sérieux, quasiment 60 km là.
Oui.
Ah oui.
Ben, je pense que le point vraiment, si on est sur le pied à la frontière franco-belge, on est à 50 quelques kilomètres, mm-hmm. mais c'est pas nécessairement de là que vont embarquer les,
que les bateaux. Partent.
Ça peut être effectivement entre 50, 60, 65, 70 kilomètres.
Quand même, oui.
Quand même, c'est moins que la Méditerranée ou beaucoup, beaucoup moins que vers les îles Canaries. Oui, c'est ça. Mais ça reste dangereux. C'est une mer nordique, là, donc avec une météo capricieuse. Donc, dans les régions côtières dans les régions côtières belges, il y a déjà un certain réseau d'infrastructures d'accueil. Les associations de solidarité, les bénévoles, ONG sont déjà assez présents puisque la Belgique... en voie de devenir peut-être un lieu plus régulier d'embarquement en mer pour les migrants, mais elle était déjà un lieu de séjour temporaire assez fréquent. Certains utilisaient même le terme en référence aux mauvaises conditions de stockage de migrants avant que les migrants roulent vers la France pour ensuite y prendre le bateau pour l'Angleterre.
Oui, je comprends. Ouais.
Donc déjà par rapport à la même période l'an passé, on constate plus du double du nombre d'embarquements à partir de la Belgique et les réflexes des autorités belges face à cette tendance, c'est la forteresse un peu... réflexe un peu primitif, là, mettre des caméras partout et installer des blocs de béton sur les plages, un peu comme on voyait à Calais il y a quelques années.
Il y a 10 ans, oui.
Ils creusaient même des fossés, ils mettaient quasiment juste des crocodiles dedans.
Donc, des barbelés puis tout, là, oui.
Voilà.
Ouais.
Je reste en Belgique avec deux mesures anti-migrants qui sont pas en lien avec les traversées de la Manche. D'abord, baisse drastique de l'octroi de l'asile. On est passé d'un taux d'acceptation des demandes de 48 % en 2024 à 28 % en 2025.
OK.
Alors que seulement 9000 personnes ont bénéficié d'un statut de protection, surtout des Afghans, Palestiniens, Érythréens, Turcs et Somaliens. Une baisse qui s'explique entre autres par un nombre record de révocations de statut de réfugiés et par le gel des dossiers de demandeurs d'origine syrienne et aussi du gel de ceux des migrants ayant déjà effectué une demande dans un autre pays de l'Union européenne. Dernière nouvelle de Belgique, le 31 mars dernier, un accord a été signé entre Bruxelles et Alger pour l'expulsion de migrants algériens qui sont en situation irrégulière sur le territoire belge.
Mm-hmm.
C'est un accord qui doit être qui doit être adopté éventuellement par le Parlement et dont la légalité reste à démontrer, puisque si je vous lis un extrait du texte de l'accord qui prévoit, j'ouvre les guillemets, la possibilité de transférer plusieurs personnes par vol et de recourir à des vols directs ou indirects. Donc j'ai un peu l'impression qu'on pourrait facilement se retrouver dans une dynamique d'expulsion de masse sans que les dossiers des migrants soient examinés individuellement, selon les règles en vigueur. Évidemment, le discours politique qui enrobe toutes ces mesures, comme toujours, il amalgame peur, sécurité, criminalité, atteinte aux valeurs nationales, etc.
Et l'Algérie a accepté de reprendre ses ressortissants, je comprends bien. Là.
Oui, l'accord a été signé.
Ça parce qu'avec la France, ça faisait quelques années là, que l'Algérie refusait, pour d'autres raisons, là, de reprendre les ressortissants. Puis là, récemment, il y a eu un accord aussi avec la France.
La Belgique négociait aussi depuis plusieurs années avec l'Algérie. Ça a fini par
aboutir.
Par aboutir, voilà.
Parfait. On n'a pas dit qu'on était content que Orban soit dehors, Simon, en Hongrie, vu qu'on est dans le bloc européen.
Je ne sais pas s'il va s'exiler en Belgique et peut-être prendre le bateau par la suite, mais on est très content effectivement.
Ou prendre le pouvoir et faire encore des veto à l'Union européenne.
Il faut dire que l'alternative qu'il remplace, c'est pas la panacée non plus, mais...
Mais quand même, quand même, ça va donner un petit break, là, quand même.
On était un peu tanné de lui.
Un peu. De War. Donc, merci Simon.
Ça fait plaisir.
On va entendre quelques notes de musique et puis après, je vous parle d'extrême droite au Canada. Donc, on revient en partie, oui, au Canada, au Québec, pour des nouvelles de l'extrême droite, surtout en Ontario, finalement. Au tribunal de Toronto, il y a deux semaines, Matthew Hartop a écopé de 20 ans de prison sans droit de libération conditionnelle avant qu'il n'ait accompli le tiers de sa peine pour sa participation au groupe terroriste Division Atomwaffen. L'homme de 30 ans avait plaidé coupable en 2025 d'accusations de nature terroriste pour des faits qui se sont déroulés au Québec et en Ontario de 2018 à 2022. Il avait facilité une activité terroriste, consenti à des tiers de commettre un attentat et commis une infraction au profit d'un groupe terroriste, ça c'est des accusations officielles. Il aurait recruté des membres, publié du matériel de propagande, encouragé son groupe à commettre des actes de sabotage contre des infrastructures et de violence contre certains groupes de la société. Toujours à Toronto, au procès de son présumé complice, Christopher Nipak, 32 ans, la défense affirme qu'il n'est pas interdit d'appartenir à une association de suprémacistes au Canada. Christopher Nipak est accusé, lui, d'avoir participé à une activité terroriste de la division Atomwaffen et aussi qu'il est membre d'Active Club Canada. On va parler un petit peu des Active Club. Ces clubs de combat formés par des groupes suprémacistes blancs pour promouvoir supposément la bonne forme physique peuvent mener à de la violence extrême, prévient un récent rapport de Sécurité publique Canada obtenu par CBC. Ce rapport, publié au début mars, semble indiquer pour la première fois que le ministère fédéral qui supervise la GRC cible directement ce mouvement. Sur plus de 200 clubs du genre recensés dans le monde, un nombre disproportionné, soit plus de 30, sont actifs au Canada, selon le rapport. Donc, c'est à peu près plus de 10% au niveau des Active Clubs. Second Son Canada, un groupe d'extrême droite, compte à lui seul plus de 15 clubs au pays. Ces clubs de combat fascistes ont délaissé progressivement les forums en ligne pour organiser des entraînements en présentiel et des manifestations publiques. Le nationalisme blanc est plus menaçant que jamais, dit Evan Balgar, directeur général du réseau canadien anti-haine, qui qualifie ces groupes de principales menaces extrémistes à motivation idéologique au Canada.
Mais il est permis d'être un nationaliste blanc, mais pas de le dire. C'est ça que je comprends de la loi?
Ou... Non, ben ça, c'est la défense d'un des accusés. Ah, donc, okay. Ça a prouvé en cours.
OK, c'est son interprétation.
Exactement, okay. Exactement. Qu'au niveau de la liberté d'expression, ben ça, c'est un débat qui existe depuis longtemps et qui n'est pas terminé, c'est sûr. Donc, le rapport souligne également les liens entre ces clubs de combat et des réseaux ayant des antécédents documentés de violences graves, notamment le tristement célèbre gang skinhead des Vinland Hammerskin, qui en 93, avec trois Canadiens dans leur rang, ont été reconnus coupables du meurtre d'un homme noir au Texas. En juillet 2025, l'unité d'enquête visuelle de CBC a identifié les lieux d'entraînement de différents clubs, comme Nationalist 13, basé dans le sud de l'Ontario, et Second Son, dont je parlais, en Colombie-Britannique, dans des parcs, des centres communautaires et des salles d'arts martiaux. Le rapport, donc, cite un article qui a permis d'identifier des propriétaires de salles d'arts martiaux mixtes, des membres de clubs et des membres de Second Son ayant participé à une conférence néo-nazie à Vancouver, donc l'année passée, en 2025. Fin février, plus récemment, la mairesse d'Hamilton et des militants antiracistes ont condamné la tenue d'une manifestation organisée par Nationalist 13, justement à l'extérieur de l'hôtel de ville de Hamilton. Dans la dernière année, Nationalist 13, ou NS13, est devenu plus public que jamais. Ses membres se sont joints aux membres d'autres clubs actifs lors de récentes manifestations anti-immigration à Toronto, London et Hamilton, en tenant des bannières réclamant l'expulsion de masse des immigrants. Donc, on voit tous les liens entre les supposés terroristes d'extrême droite, les clubs d'entraînement, des manifs publics contre l'immigration. Donc, tu sais, c'est une espèce de nébuleuse là qui... C'est sa toile.
Mais qui tourne beaucoup autour, effectivement, des trucs sportifs, là, des gyms. Puis
de plus en plus, les Active Clubs, comme ils appellent, exactement. Ben voilà, Simon, écoute, je vais te laisser présenter ta pièce, la deuxième de l'émission.
On va écouter Bibi Club. C'est un duo montréalais, Bibi Club, qui est composé de Nicolas Basque, membre du groupe Pleine Seine Anémones, et d'Adèle Trottier-Rivard, qui, pour vos chroniques mondaines, est la fille de Michel Rivard. Leur album Amaro est sorti tout récemment sur l'étiquette Secret City Records et il figure en 11e position du palmarès local de Choc. J'ai choisi une pièce en anglais. L'album est toutefois bilingue. Un titre, selon moi, mi-électroclash, mi-post-punk, Washing Machine. Ils sont actuellement en tournée en Europe. Seule date à venir en Amérique du Nord, si jamais vous passez par les Maritimes, ce sera au Sappy Fest le 2 août à Sackville, Nouveau-Brunswick. On écoute donc...
Bibi Club! Washing machine.
Club aux Apatrides Anonymes sur choc.ca. La grosse nouvelle en immigration, on s'y attendait, c'est le projet de loi fédérale C-12, appelé loi visant à renforcer le système d'immigration et la frontière, qui a été adopté la semaine dernière. Toutes les étapes législatives ont été franchies. La sanction royale a été donnée le 26 mars. La nouvelle loi impose un délai d'un an après l'arrivée au pays pour déposer une demande. Sont donc maintenant inadmissibles à l'asile autour de 30 000 personnes qui sont entrées au Canada après le 24 juin 2020, mais qui ont déposé leur demande après le 3 juin 2025. Le chiffre de 30 000 pourrait augmenter avec les personnes qui ont déposé des demandes en février et en mars de cette année, dépendamment de quand elles sont arrivées au Canada. Des milliers de demandeurs d'asile ont déjà reçu une lettre du gouvernement canadien les informant que leur dossier ne sera pas envoyé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié et qu'ils doivent quitter le territoire. Textuellement, dans la lettre, on peut lire ceci. « Vous devez quitter le Canada dès que possible et confirmer votre départ auprès de l'Agence des services frontaliers du Canada. Si vous ne le faites pas, une mesure d'expulsion peut être prise à votre endroit. » Donc, une formulation que plusieurs avocats en immigration jugent tellement violente qu'ils ont préféré ne pas montrer la lettre à leurs clients, mais plutôt leur expliquer la situation dans leurs propres mots, d'une manière un petit peu plus humaine, disons. Surtout que la décision de déposer ou non une demande d'asile peut reposer sur des facteurs qui peuvent avoir changé depuis son arrivée au pays, par exemple l'évolution de sa situation personnelle ou familiale, ou encore des événements d'actualité qui font en sorte que le contexte a changé dans son pays d'origine. On peut penser aux gens dont les permis temporaires viennent d'arriver à échéance, alors qu'en même temps une guerre éclatait, ou encore un changement de régime politique avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement autoritaire. Je pourrais vous parler longtemps de ces nouvelles dispositions d'immigration qui sont en partie en contravention du droit international. Je vais vous inviter à lire un éditorial que je qualifierais quasiment de vitriolique de Judith Lefebvre sur pivot.québec, qui s'attarde surtout au très fort potentiel d'asservissement et d'exploitation de ces mesures sur les classes migrantes les plus vulnérables. Le titre « Vivre sur le bras des autres ». Et tant qu'à pluguer Pivot, lisez aussi le texte de Francis Hébert Bernier « Le Canada abandonne les plus vulnérables pour financer l'armée », dans lequel il nous explique comment les compressions successives au ministère fédéral de l'immigration correspondent à un effritement rapide de l'état de droit en matière de droit d'asile, entre autres. Je reste au fédéral, mesure temporaire annoncée fin mars, Prolongation d'un an des permis de travail de 10 à 15 000 travailleurs étrangers temporaires qui sont au Québec. Plusieurs d'entre eux commençaient à paniquer puisque l'échéance incessante de leur permis rendait impossible le dépôt d'une demande de résidence permanente. La mesure ne s'applique qu'aux personnes qui ont déjà été invitées à soumettre une demande de sélection au Québec. Il y avait vraiment un problème d'arrimage entre les programmes fédéral et provincial en raison de retard dans les traitements des dossiers du côté fédéral. Et cette prolongation vient normaliser ou remettre sur les rails le processus normal ou habituel vers la résidence. Québec n'est pas content, comme toujours. Le ministre Roberge, bientôt peut-être feu ministre Roberge, on verra. Il a affirmé que le fédéral aurait dû exclure de cette prolongation prévisoire les travailleurs des régions de Laval et de Montréal en raison d'enjeux identitaires et linguistiques basés sur de l'idéologie électoraliste et aucune donnée probante ou étude sérieuse.
Oui, oui.
J'aurais aimé aussi vous parler du PSTQ, qui, on le sait, a sauvagement remplacé le PEC il y a quelques mois. Article récent dans Le Devoir qui dénonce la lourdeur ou même l'absurdité des exigences une fois qu'on a été gracieusement invité à y soumettre une demande. Par exemple, il faut fournir ses relevés de notes de lycée. Eh oui, je ne sais pas si vous avez conservé vos bulletins du secondaire.
Je n'ai jamais allé au lycée, moi.
Non, mais c'est parce que tu n'es pas français, hein, ou sinon tu aurais pu aller à Stanislas. mais bon, étant donné le flou juridique dans lequel on se trouve actuellement avec la nouvelle première ministre désignée à Québec, qui a promis de rouvrir partiellement le PEC, donc c'est difficile de prévenir l'avenir du PSTQ. Selon moi, il va probablement rester ce programme, mais on verra peut-être plus vers l'automne s'il y a évolution.
Ah oui.
Je termine à Sherbrooke avec une initiative intéressante de la part de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. C'est une première au Québec, une ligne téléphonique, une ligne d'écoute, donc destinée aux personnes victimes de racisme, qui est disponible depuis le 1er avril avec des bénévoles qui pourront soit simplement écouter et échanger avec vous ou au besoin conseiller et diriger vers d'autres ressources. On explique du côté de la Fédération que le racisme est en augmentation et que les personnes qui en sont victimes souvent ne savent pas à qui s'adresser, surtout si la situation a été vécue dans un contexte de logement, de travail, dans un cadre institutionnel, discrimination en service de santé, par exemple, mauvais traitement par un service de police, ou simplement du racisme ordinaire, des insultes dans la rue, par exemple. Donc, pour les gens qui sont dans la région de Sherbrooke, le numéro de cette ligne gratuite et confidentielle, c'est le 819-823-0841. Donc, Mathieu, je
Merci,
crois que...
Merci, Simon. Je vais juste revenir sur ces 12-2 secondes. C'est que ce qu'ils disent pas dans les lettres qu'ils ont envoyées aux demandeurs d'asile, c'est qu'ils ont le droit de faire une demande de RR, là, évolution des risques avant renvoi.
Oui.
Mais ça, ils le disent pas dans les lettres, parce que quand tu es refusé au niveau du statut de l'asile, tu peux faire ça, il y a moins de chances. Mais ça, ils le disent pas aux gens. Fait que c'est ça, faut vraiment que les gens s'informent, parce que...
Ben, on va espérer que les gens connaissent leurs droits ou que leurs avocats ou conseillers
ou les groupes qui les aident,
soient en mesure de les diriger.
Parce qu'il y a d'autres avenues, là, tu sais, mais c'est pas dit dans la lettre. Fait que là, ça va faire un chaos, là, incroyable, avec toute la panique. Les renvois, comment ils vont faire ça? Des renvois massifs par avion, comme la Belgique, là, ou comme, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est.
Ben, d'un point de vue opérationnel, ça marche même pas, mais d'un point de vue moral, surtout.
Ben, c'est sûr, et politique aussi.
Tu t'annonces pas ça comme ça à quelqu'un, là, tu dois partir maintenant, alors que toute ta vie est ici, là.
Ben oui. Oui, Simon, ben, je vais parler un peu de la Colombie-Britannique, parce que ça brasse pas mal de ce côté-là avec les Autochtones. Je sais pas si tu as suivi ça, mais...
Un peu, et aussi parce qu'on est écouté à Victoria.
Exactement, fait que on aime ça en parler de temps en temps. Donc, unissant leurs voix, huit chefs autochtones rejettent catégoriquement la suspension de certains articles de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones, qui est une loi provinciale en Colombie-Britannique, qui s'appelle, qu'on peut appeler aussi DRIPA. Ils remettent désormais en question le leadership de David Eby comme premier ministre de la province. Eby entend déposer un projet de loi pour suspendre en partie la DRIPA jusqu'au 31 mai 2029. La province avait proposé au préalable d'abolir une partie de la loi, ce qui avait semé la grogne encore plus au sein des Premières Nations. Une partie de cette suspension est liée au fait que la Colombie-Britannique doit harmoniser ses lois avec l'article 35 de la Constitution du Canada et avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La province estime qu'elle est vulnérable face à des litiges en raison de deux récents jugements qui pourraient remettre en cause de grands projets de ressources naturelles de la province, entre autres appuyés par Mark Carney. Premièrement, il y a la décision Cowichan...
Monsieur international.
Oui, monsieur grand projet. Premièrement, il y a la décision Cowichan où la Cour suprême de la province a conclu qu'environ 3 km carrés de terre dans la ville de Richmond sont des terres ancestrales. Deuxièmement, il y a eu aussi la décision sur les droits miniers des nations Jigdala et Atéchat. Et la province a porté ces deux jugements, évidemment, en appel. Cette volonté de suspendre en partie la DRIPA, donc la loi sur la réconciliation, hérite des chefs autochtones, puisque légalement, la Colombie-Britannique ne serait plus forcée d'arrimer ses lois avec les droits constitutionnels des Autochtones. Il considère la DRIPA comme un outil de travail qui permet aux deux gouvernements de négocier de bonne foi.
Ben, ça vient briser plusieurs ententes historiques, quand même, cette disposition.
Oui, puis la loi particulièrement, puis là, les décisions de cour, non, c'est tout un enchaînement.
Ben oui.
Les chefs dénoncent aussi le climat politique toxique et la montée du racisme qu'ils observent dans leur communauté à cause de ce débat-là actuellement. Ils soulignent que d'un côté, le Parti conservateur, l'opposition officielle, veut abroger carrément la loi et que de l'autre, le NPD, veut modifier ou suspendre la loi provinciale. Le NPD a une voix de majorité actuellement et trois de ses députés sont autochtones.
Ça sent les démissions à venir, ça.
Oui, et là, le gouvernement a décidé que ça serait un vote de confiance en plus de suspendre une partie de la loi. Mais finalement, ce lundi, il a reculé. Le projet de loi a été reporté à beaucoup plus tard et il a dit que ça serait pas un vote de confiance. Donc, c'est à voir pour la suite des choses, de ce côté-là. Sinon, on va à Terre-Neuve. Simon, le taux d'incarcération des adultes autochtones à Terre-Neuve et Labrador est 8 fois plus élevé que celui des adultes allochtones. Une analyse de l'organisme First Light montre que 43% des adultes détenus sont autochtones. Chez les femmes uniquement, plus de la moitié des détenus sont autochtones. C'est quelque chose, hein?
Pour un pourcentage dans la population générale de quoi? 2-3%?
J'y arrive, non? Un petit peu plus, quand même.
Un petit peu plus.
les Autochtones représentent 9,2% de la population quand tu comptes Terre-Neuve et Labrador. Il y a plus de Inuits, entre autres. Cette étude est la première depuis 1996 à mesurer le taux d'incarcération des Autochtones dans la province. À l'époque, le gouvernement provincial estimait que 12% des détenus étaient autochtones en 1996. On est rendu à autour de 45-50%.
Okay.
Ça va bien, hein? First Light révèle aussi qu'une seule des prisons provinciales offre des programmes culturels autochtones, alors que 96% des personnes interrogées autochtones pour l'étude disent qu'elles participeraient à de tels programmes s'ils étaient offerts. Suzanne Barry, Mi'kmaq et travailleuse sociale, a travaillé avec des détenus et d'ex-détenus lorsqu'elle était au service de la société John Newward. Elle explique que les programmes disparates ne sont pas cohérents. Ils ne sont pas mandatés par le gouvernement. S'il y en a d'offres, ils sont offerts par différents organismes, ne sont pas réglementés, explique-t-elle, pour offrir les services de soutien qui aideraient les gens et s'attaqueraient aux problèmes qui les amènent à se retrouver dans le système judiciaire. Nous travaillons en vase clos, sans processus uniforme, poursuit-elle. Nous sommes plusieurs à faire ce travail, mais nous le faisons en quelque sorte sans financement, note l'intervenante sociale. La ministre de la Justice a qualifié de troublante la surreprésentation des personnes autochtones dans le système judiciaire et a dit qu'elle travaillerait avec les communautés autochtones, avec les sociétés, les groupes communautaires, etc., etc. Bon. Et dernière petite nouvelle, Simon, petite, quand même importante, parce que c'est la première fois, je pense. Quelques 124 victimes depuis 1950, dont plus de 50% depuis l'an 2000, en dévoilant une cartographie des femmes et filles autochtones assassinées ou disparues au Québec. Femmes autochtones du Québec montrent que ce fléau n'est pas un vestige du passé, mais une urgence actuelle. Plus de la moitié de ces cas ont été recensés depuis 2000. Dans cette liste funeste, 96 des personnes qui y figurent sont des filles ou des femmes assassinées. Quelques 14 femmes ou filles portées disparues n'ont jamais été retrouvées. Il y a une concentration importante dans le sud du Québec, notamment dans les milieux urbains. 75% des disparitions se sont produites hors communauté, dans des villes et villages allochtones. Les régions les plus touchées sont le Nunavik, dans l'ordre, Montréal, l'Outaouais, le nord du Québec, la Côte-Nord et la Montérégie. Les meurtres touchent particulièrement les jeunes femmes, notamment celles âgées de 18 à 39 ans. Ils sont commis en majorité par des hommes et dans une très grande proportion, il s'agit de violences conjugales, familiales ou intimes. Ces chiffres ne représentent qu'une partie de la réalité selon Femmes autochtones du Québec. De nombreuses limites structurelles et administratives rendent encore aujourd'hui très difficile la documentation complète des cas. Par exemple, des femmes autochtones qui, jusqu'en 1985, perdaient leur statut en épousant un homme allochtone et devenaient donc difficiles à retracer. Donc, on parle, je répète, 124 victimes depuis 1950, officiellement, ce qui a été recensé, pour le Québec seulement, parce qu'on avait les chiffres pour le Canada avec la commission qu'il y avait eu, mais pour le Québec, on n'avait pas encore de chiffres. Donc, une étude qui vient de sortir là-dessus.
Et comme pour les statistiques carcérales, on a une surreprésentation assez forte ici aussi. Là.
Ah ben oui, au Québec, en Ontario, un peu partout, puis partout. Dans l'Ouest, encore pire, là, fait que ouais. Tout à fait. On va passer à notre troisième pièce, Simon. Ça va être You Do avec Nolan Potter, la pièce Golf du Mexique. C'est You Do Right avec Population 2 et Nolan Potter qui est un saxophoniste. C'est un album qui est sorti en 2025 sur Motlan Records et c'est une séance instrumentale improvisée qui a été enregistrée à Austin en plein festival South by Southwest l'an passé. Donc c'est un album complet. On va écouter une pièce de 4 minutes qui s'appelle Golf du Mexique. donc, c'était You Do Right avec Population 2 et Norlin Potter qui jouait, je pense, pas du sax là-dessus, peut-être de la flûte traversière ou de la clarinette, on n'était pas sûr, Simon et moi. Donc,
je me prononce pas.
La pièce instrumentale de presque 5 minutes, Golf du Mexique. Simon, je te repasse le micro.
Je vais me promener sur deux continents, Amérique et Afrique. Je vous parle de mémoire et d'histoire que les mouvements de droite cherchaient à distorsionner à leur avantage, sujet qui m'a d'abord été inspiré par un article, encore une fois, de Pivot.Québec, qui parle d'un mouvement bien actif dans tous les pays hispanophones et lusophones et qui, depuis 2019, s'articule au sein d'une nouvelle structure bien financée et organisée appelée Ibérosphère. L'un des principaux moteurs de cette union latine de la droite, de l'extrême droite, je devrais dire, c'est de prétendre que l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui serait le fruit d'années de propagande woke et qu'il faudrait en quelque sorte la corriger. C'est pas exprimé comme ça, mais c'est à peu près ce que ça veut dire.
Ouais.
L'article en question est signé Michael Faujour et Grégoire Laurent. Son titre est « De l'Espagne à l'Argentine, les nouveaux habits du révisionnisme » et on y décrit ainsi le mode d'opération de cette nouvelle internationale fasciste. En Amérique, en Espagne, au Guatemala ou au Chili, la formule et la mécanique sont identiques, présentées comme équivalents les crimes du terrorisme d'État et ceux des organisations armées qui lui résistent, contester les chiffres établis par les commissions de vérité et les travaux académiques et réhabiliter les dictatures comme rempart contre le péril communiste. On parle encore de péril communiste en 2026, c'est quand même fou. Si ça vous rappelle les attaques aux États-Unis contre la théorie critique de la race, vous avez raison, le parallèle est tout à fait valide. Les auteurs de l'article nous apprennent qu'on appelle ce procédé la... Je sais pas, Mathieu, prends-tu un guess? La théorie de... des...
La théorie... non.
Des deux démons. J'avais jamais entendu ce terme.
Okay.
Théorie qui va plus loin que le « There are good people on both sides » de Trump qui mettait les antiracistes sur le même pied que les néo-nazis. Cette théorie vise carrément le renversement des rôles, c'est-à-dire que les colonisateurs génocidaires seraient les gentils qui apportent la civilisation et ceux qui leur résistent ne seraient que des terroristes barbares assoiffés de violence.
Mm-hmm.
Dans l'article de Pivot, on s'attarde sur deux exemples précis. D'abord, la remise en question de l'héritage de Franco en Espagne, dont les révisionnistes espagnols cherchent à réhabiliter la mémoire malgré toutes les horreurs du régime franquiste. L'autre cas d'espèce dont on nous parle, c'est le chiffre de 30 000 disparus pendant la dictature argentine, qui, selon les négationnistes argentins, serait une affabulation visant à humilier les militaires.
Est-ce qu'il parle des enfants enlevés par les militaires? Non, ça, il n'en parle pas, non.
Non, ben ça n'existe pas.
Ça n'existe pas, c'est vrai.
Ou ce sont des cas de vraiment exceptionnels. Article de Pivot, fort intéressant en guise d'introduction à cette ibérosphère. Pour aller plus loin, je vous suggère une lecture plus poussée. Un dossier portant le titre « Extrême droite et l'Amérique latine » signé par un des cofondateurs de l'Institut latino-américain du multilatéralisme, Giancarlo Summa, et dans lequel on s'attarde surtout sur l'émergence de cette union des extrêmes droites dans les Amériques, et c'est publié dans le site de la Fondation Jean Jaurès, qui est jean-jaurès.org.
Les communistes.
Ceux-là, on peut peut-être les qualifier comme, en tout cas, anciens communistes. Un autre texte paru, celui-ci, dans le site du Comité pour les droits humains en Amérique latine, le CEDAL, se penche sur l'histoire récente du Guatemala. C'est la traduction française d'un dossier d'abord paru dans le site web du North American Congress on Latin America, le NACLA. Dans le site du CEDAL, vous trouverez le texte sous le titre « Mémoire historique et justice, une bataille pour l'histoire guatémaltèque ». On nous rappelle l'existence d'un rapport intitulé « Mémoire du silence » qui est sorti en 2013, qui était le résultat de la collaboration entre des membres de la société civile et des agences gouvernementales guatémaltèques. Donc, c'était une instance placée sous l'égide de l'ONU qui avait été nommée « Commission pour l'éclaircissement historique ». Le rapport indique qu'entre 1960 et 1996, les Mayas du département d'El Quiché ont été victimes de 344 massacres de la part de milices gouvernementales, plus de 200 000 morts, et conclut qu'il s'agit d'un génocide. Donc, je rappelle qu'on n'est pas durant la conquête espagnole, mais bien à la fin du 20e siècle. Le devoir de mémoire, ou dans ce cas-ci, je devrais peut-être plutôt dire le combat de mémoire, il est beaucoup plus technique que ce que je mentionnais pour l'Espagne et le...
l'Amérique latine.
Merci. Le rapport de cette commission reposait sur 80 boîtes contenant des documents papier avec témoignages, rapports de police, photos, artefacts, enregistrements audio, Et il faut absolument conserver cette mémoire-là, numériser tout ce qui peut l'être et sécuriser toutes ces boîtes avec les originaux dans un lieu propice à leur conservation.
Oui.
Mais surtout dans un endroit secret, parce qu'on sait que ces mouvements révisionnistes d'extrême droite qui sont aussi actifs au Guatemala, ils aimeraient beaucoup mettre la main sur ces preuves pour les faire disparaître.
Ben oui.
Et ultimement, l'autre objectif, une fois tout ce travail de classement terminé, c'est bien sûr de rendre ces archives accessibles au public et aux chercheurs. Je termine avec la reconnaissance par l'ONU de la traite des esclaves africains comme étant le crime contre l'humanité le plus grave de l'histoire.
Okay.
Initiative légalement non contraignante du Ghana, qui a évidemment rencontré de la résistance. 123 voix pour, 3 contre, États-Unis, Israël, Argentine.
Les meilleurs.
Les meilleurs. Et 52 abstentions, dont le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne. Donc, c'était non contraignant. Ça veut dire pas d'excuses officielles ou de réparations prévues pour l'instant. Je vais citer le président ghanéen. L'adoption de cette résolution sert de garde-fou contre l'oubli, contre les politiques qui normalisent tout doucement l'effacement, en particulier aux États-Unis, où des livres sur le sujet sont bannis des écoles et des bibliothèques publiques. Donc, désolé, j'ai beaucoup de citations aujourd'hui. J'en ai une autre que je trouvais assez percutante. C'est Antonio Guterres qui a ajouté « Les bénéficiaires de l'esclavage ont construit une idéologie raciste, transformant des préjugés en pseudo-sciences. » Et les blessures causées par cet ordre mondial pervers sont encore profondes. Il faut aujourd'hui montrer du doigt le mensonge de la suprématie blanche et travailler pour la vérité, la justice et la réparation. Donc, on ouvre la porte à une prochaine résolution multilatérale qui pourrait peut-être cette fois-ci être légalement contraignante.
Ben oui, puis on parle du crime donc le plus grave.
Oui,
crime contre l'humanité le plus grave
de l'histoire.
De l'histoire.
C'est ça. Et évidemment, ben Israël aimerait peut-être que l'Holocauste soit désigné comme le crime étant le plus grave. Je rappelle qu'il ne s'agit pas d'une compétition non plus.
Ou le génocide à Gaza, on ne sait pas, hein? Oui.
Non, je ne suis pas sûr que ça, il voudrait le rendre éligible à une telle liste.
C'était
une blague.
C'était ironique, Simon. Donc, le Canada a voté pour, je comprends bien, au moins ça. Dans quelques secondes, l'agenda. Le jour de la Terre est le 22 avril, mais il y a des manifs un peu partout en fin de semaine au Canada, au Québec, au Canada et dans le monde. À Montréal, manifestations festives et rassembleuses, ainsi qu'une foire sous le thème « Pas une coupe de plus ». On parle de l'environnement et des programmes sociaux et des mesures sociales. C'est à la place des festivals des 13h, donc le 18 avril, organisé par la Planète. La Planète s'invite au Parlement. Pour la 14e journée des locataires, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec vous invite à une manifestation festive à partir de 13h au parc Catherine Primeau à Longueuil. Ça se marche du métro Longueuil, donc c'est le 24 avril dès 13h. Les revendications, la création de règlements pour contrôler les hausses de loyers, la création d'un grand nombre de nouveaux logements sociaux et la reconnaissance du droit au logement dans la Charte des droits du droit et liberté du Québec.
On pense souvent que la crise du logement, c'est surtout Montréal et les grands centres, mais les banlieues, les villes de région aussi, dont Longueuil.
Exactement.
Il y a une importante crise du logement à Longueuil.
Oui, depuis quelques années, Reclac se promène pour sa journée annuelle dans différentes régions du Québec, justement. Sinon, 25 ans après le sommet des Amériques, on rappelle que en avril 2001, une résistance populaire fait face au sommet des Amériques alors que 34 chefs d'État se rencontrent dans la ville de Québec pour discuter de la ZLEA, zone de libre-échange des Amériques. Mesures de sécurité jamais vues auparavant, effectifs policiers démesurés, une clôture et tout le pataclan. La mobilisation débute un an plus tôt lorsque la convergence des luttes anticapitalistes se forme. Donc, la bibliothèque d'Iran, à Montréal, vous invite à une journée pour raviver la mémoire de cette opposition historique. C'est le 25 avril 2026, évidemment, avec exposition d'archives de photos d'artefacts. Il va peut-être avoir des masques à gaz et des bouts de gaz lacrymogène.
Des bouts de manifestants, peut-être.
Peut-être. Des matraques et des boucliers. Discussion collective sur la résistance, souper communautaire et projection. On précise VHS numérisé pour l'occasion. C'est bien.
Okay.
Ça se passe au Révolte, donc 2035 Saint-Laurent, le 25 avril dès 13h. Sinon, ben autour du 1er mai, il y a beaucoup de choses. Le fracas vous invite à un rassemblement le 1er mai à 16h au Square Victoria. C'est vraiment une espèce de foire, fête avec nourriture, kiosque, bricolage. Les enfants sont bienvenus. Ensuite, ça brasse un peu plus. Manif du 1er mai à 18h, toujours au Square Victoria, sous le thème « Vers la grève sociale », organisé par la CLAC, évidemment, et aussi les IWW, le Conseil central de Montréal de la CSN, Désinvestir pour la Palestine, et la CRU, le groupe étudiant et Alliance ouvrière. Le lendemain, c'est la grande manif nationale qui se passe à Montréal de l'intersyndicale et des mouvements communautaires sous le thème « Droit piétiné, faut résister ». C'est le 2 mai, donc à 13h au Mont-Royal. Et dernière petite information, la flottille mondiale Sumud a indiqué que plus de 100 bateaux et 3000 participants venus du monde entier sont partis des ports espagnols et italiens le 12 avril dernier à destination de la bande de Gaza. Des professionnels de la santé, des journalistes, des militants, des ouvriers du bâtiment, toutes sortes de gens sont à bord de la flotte avec des médicaments et d'autres fournitures vitales. Cette traversée est toutefois menacée par la possibilité, oui, assez forte, que les bateaux soient interceptés par les forces israéliennes.
Une possibilité de presque 100%.
Ben oui.
Corrige-moi si je me trompe, c'est peut-être la plus importante flottille à partir pour Gaza depuis que ce genre de...
Justement, j'allais le dire, mais c'est vraiment la plus grosse. On parle de 100 bateaux, là, c'est vraiment impressionnant.
Oui, quand même.
Oui, tout à fait. Donc, les passagers risquent d'être mis en détention, comme ça a eu lieu dans les dernières années. Des dizaines de navires, au cours des deux dernières décennies, ont essayé d'arriver à Gaza, puis ils n'ont pas réussi depuis 2008. Donc, ça fait quand même longtemps.
Oui, souvent interceptés, entre Grèce, Chypre, en eau internationale.
En eau internationale, tout à fait. Puis cette année, ce qui fait que c'est plus gros, c'est que la flottille de la Liberté, qu'on a souvent entendu parler ici au Québec, se joint à la flottille mondiale du Sumud pour une expédition commune. Donc, ce qui fait que ça va être encore plus gros. Donc, fait que surveillez ça. Ils sont partis le 12 avril. Ça, c'était lundi.
Mais de différents points. Donc, ils n'arrivent pas nécessairement tout en même temps non plus. Mais...
Non, la stratégie n'est pas tout arrivée en même temps non plus, évidemment, pour disperser les forces réactionnaires. Donc, on se dirige vers la fin de l'émission, Simon? Donc, c'est la fin de l'émission tranquillement. Je voulais prendre l'occasion de faire un petit rajout, Simon. Un événement triste qui a eu lieu à Montréal dernièrement. C'est le titre de l'article du CTTI, Centre des travailleurs, travailleuses et migrants, c'est « Une vie perdue dans le froid, par extension pleure Manjan Singh », qui est un travailleur migrant indien, qui est tout simplement, tout bonnement et malheureusement décédé dans le froid au mois de janvier dans un parc extension. Soit le Centre des travailleurs, travailleuses, migrants le connaissait bien. Donc, il y a eu un rassemblement donc le 7 avril devant le bureau d'arrondissement à parc extension qui regroupait toutes sortes de gens, dont le CAP, BIP et le Centre des travailleurs, travailleuses et migrants. Et je voulais juste citer une citation du porte-parole du CDTI. Pour le centre, ce drame n'avait rien d'inévitable. Les travailleuses et travailleurs migrants sont poussés vers des conditions de précarité extrême par des choix politiques, privés d'un statut stable, exclus des protections sociales et contraints d'accepter des emplois précaires et sous-payés. Beaucoup se retrouvent à un pas de l'itinérance. Manjan Singh n'est pas mort seulement à cause du froid, il est mort parce qu'un système l'a abandonné à chaque étape. C'est quelqu'un de connu dans la communauté à Parc Extension qui s'impliquait au CTTI, qui était en colocation, il s'est retrouvé dehors, pas trouvé de nouveau logement, il s'est retrouvé à la rue, puis il est mort de froid. C'est vraiment une histoire aussi triste que celle-là.
Triste, effectivement.
Donc, il y a eu un article dans Le Devoir, dans la presse quand même, autour du rassemblement, donc il y a une semaine à peu près. Donc, voilà. Fait que c'était un peu en guise d'intro, de conclusion. On se dit, Simon, que... On va se revoir peut-être dans deux semaines, le 30 avril.
Oui, peut-être. Je ne sais pas si j'y serai. Marie-Ève devrait y être, toi aussi. On va essayer d'être là tous les trois.
On va essayer. Puis sinon, vous pouvez nous écouter l'émission d'aujourd'hui comme celle des dernières semaines sur notre site apatridesanonymes.info, sur notre page sur le site de Choc. Notre courriel est apatridesanonymes@resist.ca. Ne vous gênez pas pour nous écrire. Et on a une page FB pour la presse internationale et pour les événements et mobilisations ici au Québec, à Montréal.
Effectivement.
Donc, merci Simon pour la régie et tout le contenu.
Merci à toi pour m'avoir laissé une petite place dans cette émission. C'est très généreux.
Quand même. On s'est bien échangé ça.
Merci à toi.
Merci. Donc, merci à tout le monde qui nous écoutait. On va finir avec une dernière pièce. C'est un groupe quand même assez connu dans le métal progressif, assez expérimenté, qui s'appelle Between the Buried and Me. Leur nouvel album est sorti en novembre dernier. Il s'appelle The Blue Nowhere. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Door Number 3. C'est leur 11e album. C'est un groupe donc de métal progressif de la Caroline du Nord, fondé en 2000 et qui vient souvent tourner au Canada. Donc, si vous avez l'occasion, c'est très bien fait pour les amateurs de musique, à la fois expérimentale et à la fois métal.
Je confirme que c'est très bon. Donc, Between the Bird and Me. Donc, bonne soirée.
Bonne soirée à tout le monde. À bientôt.